Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Libre Propos, l'émission hebdomadaire de Radio Grand-Ciel qui nous permet d'entendre la parole de notre évêque, Mgr Philippe Christori, sur de nombreux sujets de société et d'église. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une émission spéciale. Tout d'abord, c'est la dernière de la saison, mais bien sûr, on se retrouvera au mois de septembre. Et surtout, surtout, bonjour Mgr.
Bonjour Christophe.
Et bon anniversaire, parce que vous venez de fêter...
30 ans de sacerdoce.
30 ans de sacerdoce. Vous avez l'âge, de la radio. Eh oui, vous avez l'âge de la radio.
Alors, il y a 30 ans, il aussi. Et j'ai découvert que quand j'étais ordonné prêtre, nous étions 19, mais en même temps, à l'autre bout du monde, était ordonné ce même jour notre pape, ordonné évêque, lui.
Ordonné évêque.
Donc, au même jour, lui était ordonné évêque et moi prêtre.
Ça m'a
touché, quand même.
Oui.
Maintenant, 30 ans, ça apparaît beaucoup, mais encore une fois, le père Raphaël Malcuy est dans sa 100e année de vie et il a 75 ans de sacerdoce. Donc, ouais. Ça me donne beaucoup d'humilité parce que je me dis, oui, lui, c'est 45 ans de plus que moi.
Ouais. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, c'est Clément Pierson qui s'apprête à devenir prêtre.
Donc, ordonné ce 3 juillet. Ouais. À 15h30 à la cathédrale de Chartres.
Alors, je crois qu'on parle du prêtre, justement, parce que il est au centre de votre dernier message fraternel. Je trouvais que c'est un message très, très émouvant. Moi, j'aimerais savoir quand même, vous nous l'aviez dit, vous nous en aviez touché de mots lorsque vous étiez arrivé, comment vous êtes devenu prêtre, parce que vous étiez ingénieur. Alors, je cite, hein, vous avez été officier mécanicien sur un aviso escorteur à Papette. Vous avez fait une année de travaux publics pour creuser un canal au sud du Soudan. Enfin, vous étiez dans la vie la plus active qui soit, vraiment les mains dans la matière.
Oui, parce que c'est vrai que ma formation d'ingénieur m'a conduit d'une part à faire un stage aux États-Unis, d'abord dans le textile. Ensuite, j'étais, comme beaucoup de jeunes à l'époque, appelé sous les drapeaux. Mais j'ai fait 15 mois, donc 3 mois aussi d'engagé sur un bateau de guerre basé dans le Pacifique. Puis je suis parti travailler effectivement au Sud-Soudan sur un grand canal qui était destiné à véhiculer beaucoup d'eau vers le nord du Soudan pour irriguer et notamment le Soudan, mais aussi l'Égypte. Et après, j'ai travaillé 3 ans pour une entreprise américaine de câblage très high-tech, très, très, très précis pour l'aviation, les fusées, etc. Donc, c'était au terme de tout ça que j'ai rencontré un groupe de prière d'une communauté catholique qui s'appelle l'Emmanuel, que je ne connaissais pas du tout. Et dans ce groupe de prière, il y avait environ 200 jeunes fort, fort joyeux, vivant leur foi profondément. Je ne croyais pas en Dieu. Alors, j'ai été très surpris par leur chaleur, leur foi qui m'apparaissait. En tout cas, je l'interprétais comme ça. Et je suis resté là, fidèlement. Et puis, il y a eu des petits rendez-vous, des petits signes tout simples, des paroles de l'Écriture, de la Bible qui m'ont rejoint, qui m'ont touché. Et un peu à la fois, j'ai commencé à prier, à prendre du temps, à prendre la Bible, à retourner à l'église ensuite, et puis à découvrir un merveilleux lieu qui est Paray-le-Monial, où chaque été, il y a des grandes sessions, toujours actuellement, on peut y aller pendant quelques jours, session internationale de la communauté d'Emmanuel à Paray. Donc vraiment, tout un chemin, un retour à la foi, voilà.
Et puis un retour, ça veut dire que dans votre enfance, par exemple, vous avez été un enfant pieux, né dans une famille catholique. Comment ça se passait? Indiscret, excusez-moi.
Ma famille était catholique, pratiquante. J'étais dans des écoles religieuses. Mais c'est vrai que ça ne m'a pas laissé un souvenir, comment dirais-je, d'une foi très personnelle. Je rentrais dans le moule, je pense, quand j'étais gamin. J'allais à la messe avec les parents. Mais à l'adolescence, j'ai fini par ne pas comprendre ce que ça voulait dire pour moi. J'ai fini par arrêter ma pratique vers 15 ans. J'allais parfois parce que les parents étaient contents que j'y aille, mais c'était pas pour la messe, c'était pour réfléchir à ma vie. Et puis ensuite, j'ai quitté quand j'étais étudiant. Donc c'est un retour en fait, à 26 ans. Et puis à 28 ans et quelques, c'était l'appel durant une retraite en silence, un appel très fort à être prêtre, où tout m'a parlé que d'être prêtre. Pendant 5 jours, j'étais très touché par les paroles de l'Écriture, par des lettres que je lisais, par des messages d'enseignement qui étaient donnés. Et moi, ça me disait une seule chose, tu seras prêtre. Et j'étais tellement heureux de ça que j'ai dit oui. Donc... Et ça fait 30 ans, depuis 1992, donc un 27 juin, que je suis prêtre, et je ne regrette pas ça. C'était tant de rencontres, tant d'aventures, d'accompagnement de gens, d'amitiés qui se sont créées, tant de confiance partagée. Ça, c'est étonnant, voir comment les gens, même si on sait que l'histoire a traversé, enfin, l'Église a traversé des moments difficiles, il y en aura encore peut-être malheureusement, mais les abus, par exemple, sexuels ont été un drame pour tant de victimes, et donc pour l'Église. Mais moi, je vois aussi que les gens gardent leur confiance et nous redonnent beaucoup d'espace, d'échange, d'accueil, une vie bien remplie.
Est-ce que le prêtre est un homme à part ? Vous citez dans votre dernier message fraternel un extrait des Actes des Apôtres où Dieu dit « Je vais me réserver finalement ». Alors, c'est Saoul et
Barnabé. Mettez à part, c'est ça. Je crois que le prêtre est à la fois, il faut qu'il ait son cœur dans le ciel, il faut qu'il ait les pieds sur terre, ça veut dire vraiment parmi les hommes, être proche des gens. Et je crois que beaucoup de prêtres le sont, à l'écoute des joies, mais aussi de beaucoup de peines, des deuils, des maladies des gens. Mais il est quand même mis à part. Il est à la fois membre de l'Église, membre de la famille qu'est l'Église, mais sa vocation le met à part, parce qu'il est, il est tout à Dieu, et c'est ce qui motive son, même son célibat pour le royaume. Et en même temps, il est avec les gens. Le pape dit le prêtre doit être parfois comme un berger qui accompagne son troupeau. Parfois, il est devant pour le guider. Parfois, il est au milieu pour être avec ce troupeau. Parfois, il est derrière en faisant confiance au troupeau qui sait où sont les pâturages et qui ira de lui-même dans les pâturages. Donc, quelque part, avec les fidèles qui sont avec nous, qui sont une nécessité, au sens qu'on a besoin de comme prêtre, de cette famille que sont les fidèles d'une paroisse, par exemple, d'un mouvement, d'une communauté. Ils sont notre famille, en fait, qu'on a adoptée ou qui nous adopte aussi. Donc on est parfois à part. Il y a une solitude légitime du prêtre, qui d'ailleurs est une nécessité d'être un peu parfois en recul. Parfois, c'est aussi une difficulté, cette solitude, mais elle nous donne l'occasion d'être à nouveau avec Dieu. Ouais. C'est Dieu notre consolateur. Et en même temps, voilà, être avec les gens, ouais. Écouter le cœur des gens, le cœur battre des gens. Oui.
Alors, le prêtre est parmi les hommes, et en même temps, finalement, il se refuse, on lui refuse. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Les plaisirs qui sont ceux des hommes ordinaires, des hommes communs, etc. C'est une forme il y a une forme d'héroïsme tout de même.
Forme d'héroïsme, mais on ne refuse pas tous les plaisirs.
Non, mais
le plus grand des plaisirs, pour moi, c'est d'être avec les autres. C'est de partager la vie des gens. Et on va le faire de pas mal de façons. Au quotidien, un travail en équipe, moi, ça me réjouit d'être avec d'autres personnes, des bénévoles souvent, et monter un projet ensemble. J'ai encore fait, il y a quelques soirs, pour l'équipe du diocèse du catéchuménat. On a démarré une nouvelle équipe. J'ai eu un vrai plaisir à être avec eux et à voir qu'ils me disent tous « ça m'intéresse, ok pour des dates, ok pour des rendez-vous, etc. » Donc, on a besoin de ça. On va le vivre souvent, d'ailleurs. Donc, c'est pas un refus des plaisirs. Et puis on mange avec des gens,
bien sûr,
donc voilà, on fait des voyages. Moi, j'ai pu aller au Burkina Faso, j'ai pu aller au Gabon voir des évêques avec qui on a une collaboration sur Chartres. Il y a des relations qui sont très belles. Alors bien sûr, on a exclu dans cet appel à la chasteté d'avoir sa famille, une femme, donc des relations sexuelles. Et c'est assurément une exigence forte, une offrande de soi. Mais on le fait parce que ça a du sens d'être vraiment tout à Dieu, comme le Christ est tout à son Père, et aussi d'être par votre conséquence tout aux autres, quoi.
Et comme prêtre, on reçoit des grâces particulières. Vous avez ce sentiment-là ?
Oui.
De la part du ciel ?
Je pense qu'on est accompagné. je ne peux pas dire que sensiblement, je me sens connecté au ciel en permanence. J'ai aussi à poser l'acte de foi, comme tous les fidèles, de dire « Seigneur, tu es là et je crois en ta présence et ta parole, l'Écriture, l'Évangile est mon guide de vie. Mais je vois aussi combien la foi des gens est belle et que la foi des gens me porte, alors que je suis comme apôtre, comme évêque, témoin de la foi de l'Église. » Donc il y a une sorte de réciprocité qui est heureuse. Ouais.
Vous demandez aux laïcs aussi de prendre leurs responsabilités par rapport aux prêtres, l'aider, l'épauler, et lui demander peut-être tout simplement comment ça va aussi, parce qu'il y a un homme derrière le prêtre.
Il y a un homme, il a une humanité, et de fait, il ne fera pas face à la vie, aux questions et parfois aux souffrances des gens, s'il n'est pas lui-même accompagné. Moi, j'avais souhaité, par exemple, que chacun des prêtres ait un couple, non pas d'amis, mais de frères, de gens avec qui il peut aller parler, discuter, même peut-être vider son sac quand il veut, sans jugement, dans la discrétion, parce qu'on a besoin de ça. Et c'est vrai qu'un prêtre est heureux quand on lui dit, après une grand-messe, un dimanche, « Mon père... vous avez une table ce midi, vous avez un repas, venez à la maison manger. » Moi, j'ai eu beaucoup cela, j'ai beaucoup bénéficié de l'accès aux maisons, aux appartements de gens qui m'invitaient volontiers, et c'est une richesse. Et puis, ça me donne aussi l'occasion d'écouter leur point de vue, parce que le point de vue du prêtre, il est un peu, comment on dit, le nez dans le guidon, donc le guidon de l'Église. Mais aller voir des familles où les gens vivent au contact des sociétés, des entreprises, du monde politique, par exemple, c'est une nécessité pour comprendre le regard qu'ont les autres sur la vie et ne pas s'enfermer dans son propre regard de prêtre ecclésiastique qui peut être, à mon avis, non pas biaisé, mais incomplet. Incomplet sur le réel. Le réel est entre les mains des gens.
Et vous dites que le prêtre aussi est toujours un diacre.
Oui, parce
voilà
que...
Voilà une chose qui m'avait échappé, mais...
Oui, Clément, que je ordonnerai prêtre dans quelques jours, est diacre. Donc diacre, c'est serviteur, donc serviteur des frères, en donnant la parole de Dieu, qui est un service, en annonçant la parole de Dieu, mais aussi concrètement en étant proche des gens et de leurs besoins. Donc le prêtre reste aussi un diacre, serviteur. Et le Christ montre l'exemple en lavant les pieds de ses disciples, en s'étant saint d'un linge, et en disant « Ce que j'ai fait pour vous, faites-le pour les autres ». Donc cette... attitude du serviteur demeure chez le prêtre. Il faut qu'elle demeure. Il n'est pas au-dessus de la mêlée, quoi.
Je vous remercie de votre témoignage, Monseigneur. Il nous reste une petite minute. Je vais encore vous demander
Dites-moi.
Un effort supplémentaire. Une petite parole, peut-être un petit conseil aux auditeurs pour qu'ils continuent cet été de vivre leur foi.
D'abord, je les remercie d'avoir été fidèles à l'antenne et à écouter cette émission. Je pense que l'été est un temps à la fois de repos, on n'a pas tous du repos pareillement, mais quelques semaines, j'espère que les gens les auront, même si on reste sur place, on peut se reposer, mais surtout reposez-vous avec le Christ, et peut-être par exemple, prenez le temps de lire un évangile, ça se lit en 2-3 heures, on peut lire par petits morceaux, mais de redécouvrir la vie du Christ et ses paroles, parce que ses paroles sont merveilleuses. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Beaucoup de gens ont des soucis, l'inflation, des choses difficiles à vivre, des soins, peut-être la maladie. Eh bien, venez à moi, Jésus dit ça. Venons à lui, prenons le temps d'aller voir peut-être des églises, de s'arrêter, de prier un instant. En tout cas, ça sera un repos en présence du Christ, qui pour moi est ma lumière. C'est-à-dire que sans le Christ, ma vie n'a pas de sens. Sans le Christ, ce que je fais ne... n'est plus comme orienté vers le bien suprême. Voilà. J'ai besoin de lui.
Merci beaucoup, Monseigneur. Je vous rappelle, chers auditeurs et auditrices, que vous pourrez réécouter cette émission sur www.radioranciel.fr. On se retrouve au mois de septembre.
Très volontiers.
Merci.